OK, on va commencer notre 18e, fort probablement la dernière dans le sens de la sexualité dans la série Glorifier Dieu dans notre corps. Je ne sais pas si ça va prendre une leçon ou deux, mais en tout cas, ça va être probablement la dernière là-dedans. Il va nous rester quelques autres aspects à regarder pour les prochains, peut-être encore un mot ou deux. Alors, ce qu'on va regarder ce soir, c'est le devoir des chrétiens de mortifier les péchés sexuels. On va regarder deux idées principales. La principale, c'est le devoir de mortifier les péchés sexuels qui nous est précisé dans des versets de façon très claire, comme dans Romains, chapitre 8, verset 13. Et c'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben là, si ça me tente, moi le faire, si ça me tente pas, je le ferai pas. C'est quelque chose qui nous est commandé de mortifier le péché dans notre vie. Et Romains 8, 13 va parler du principe général de la mortification du péché en général. Maintenant, on va aller voir un autre verset qui est celui de Colossiens. En tout cas, on va relire 8, 13 avant, puis après ça, on va passer à l'autre. Romains 8, 13 dit, « En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Bien entendu, là-dedans, quand on dit « vous mourrez », on ne parle pas de mort physique. Il dit « si vous vivez selon la chair », autrement dit, si vous vivez en conformité avec votre vieille nature, vous mourrez, dans le sens de la mort spirituelle. Mais si, par l'esprit, le mot-clé là-dedans, c'est vraiment « par l'esprit », on ne peut mortifier le péché dans nos vies de façon efficace si on ne le fait pas par l'esprit. On participe au combat, mais c'est par l'esprit qu'on peut avoir des victoires. Sinon, on se dirige directement vers des échecs. Et le deuxième, donc, le premier principe qu'on regarde, c'est le devoir de mortifier les péchés sexuels. En général, maintenant, l'autre idée, c'est mortifier les péchés sexuels en particulier. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, ça dit « Faites donc mourir ». Vous remarquerez dans les deux versets, ça dit « Vous faites mourir ». Faire mourir, c'est mettre quelqu'un, si on dit « m'aller à mort », c'est vraiment de le tuer, de lui enlever toute force. Alors, dans Colossiens 3, 5, ça dit « Faites donc mourir ». Ce qui, dans vos membres, tient à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Alors, on va aller un petit peu plus en profondeur tantôt dans l'explication de ces deux versets-là. Mais c'est les deux principes, les deux principales idées autour desquelles on va tourner ce soir. La première, c'est le devoir que la Bible nous impose de mortifier le péché en général, mais par l'esprit. Le deuxième, c'est que Dieu nous commande aussi de mortifier les péchés sexuels en particulier. Quand vous regardez dans Colossiens 3, 5, il y a cinq péchés qui sont mentionnés, puis sur les cinq péchés qui sont mentionnés, il y en a quatre qui sont de nature sexuelle. Alors, on va voir. Alors, le devoir de mortifier les péchés en général. Alors, bien sûr, on le sait que le Seigneur ne nous a pas sauvé ses élus, pour qu'on demeure ou qu'on s'enlise dans nos péchés, mais il nous a sauvés pour nous en délivrer et pour nous en libérer. Cependant, les chrétiens doivent comprendre de façon absolue qu'ils n'y arriveront jamais par leur propre force, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'étais à Rouyn-Noranda, j'ai fait une série... Je ne me souviens plus combien de leçons, 14 sermons, qui sont encore sur le site de Rouyn-Noranda, sur ce sujet-là, la mortification du péché. Très intéressant comme sujet, parce que c'est peu compris, et pourtant c'est une exigence très, très précise des Écritures. Alors, pour bien comprendre Romains 8, 13, il est bon de reviser et de regarder le verset dans son contexte. Quand on parle de contexte, c'est ce qui a été dit avant, puis ce qui va être dit après aussi. Mais ce qui a été dit avant prépare ce qui est dit dans Romains 8, 13, de faire mourir. Et autrement dit, ça nous dit les raisons pour lesquelles on se doit de faire le geste. Alors, dans Romains chapitre 8, versets 1 à 14. On va relire le passage au complet, puis ensuite on va s'arrêter sur le 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. T'es en train de nous dire que si on est vraiment, on appartient au Seigneur, et que le Seigneur nous a fait la grâce de nous sauver, pour nous, la condamnation, c'est fini. Jamais on ne viendra en jugement devant lui pour quelque péché que ce soit. Très intéressant de recevoir cette idée-là. Verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » La justice de la loi soit accomplie en nous. À tous les dimanches que je fais un sermon, je reviens tout le temps, mais c'est tellement important que ça nous rende bien important dans le coco. Ce qu'on appelle l'obéissance active et l'obéissance passive du Seigneur. L'obéissance active, c'est que le Seigneur Jésus a accompli à la perfection la loi. Il a fait ce que nous, on devait faire. Et il a subi le châtiment que nous aurions dû subir, subi à notre place. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il est en train de nous préparer à l'idée que nous, quand on est sauvés, on ne marche plus selon notre vieille nature, mais on obéit aux directives et à l'éclairage que le Saint-Esprit met dans notre tête, dans notre vie, pour qu'on vive selon l'esprit. Verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. » Vivre selon la chair, ça t'amène vers la mort éternelle. « Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » C'est intéressant ça, de voir ça. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, même si elle veut, elle n'est pas capable. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Autrement dit, une personne qui n'est pas sauvée, peu importe ce qu'elle fait, des gestes que nous, on considère comme étant des gestes de charité, ça ne plaît pas à Dieu, parce qu'elle est irrégénérée. Verset 9, « Pour nous, pour vous, c'est-à-dire, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est intéressant de penser que, au point de vue du Seigneur, on est mort. On est mort en Christ. On a été enseveli en Christ. Quand on fait le baptême, des fois on dit ça, hein? On est mort en Christ, on est enseveli avec lui. Et vu qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, on est déjà en lui au ciel. On est déjà rendu au ciel, spirituellement. Il dit, et verset 11, ici l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voyez-vous, ça c'est la préparation de la phrase qui s'en vient de dire dans Romains 8, 13. Romains 8, 13. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » C'est pas une petite phrase qu'il est en train de te dire là. ne te fais pas d'illusions de dire que tu as cru en Jésus-Christ, que tu as cru à une vérité qui t'a été annoncée, puis que ta vie ne soit pas transformée dans les actions quotidiennes de la vie de tous les jours. Sinon, tu te trompes. C'est ça qu'il est en train de dire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, mm-hmm. il est en train de dire, les actions du péché, les actions du corps, il est en train de dire, si vous faites mourir le péché dans votre vie le plus que vous pouvez, mais pas par ta propre force, par ta propre volonté, par ta propre décision, mais par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne participes pas. Par les actions du corps, vous vivrez. Là, il parle de vie éternelle, pas de vie. On vit déjà. Il ne parle pas de vie physique, il parle de vie spirituelle. Vous vivrez la vie éternelle. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, le chrétien doit mortifier le péché en général de façon impérative. C'est obligatoire, c'est pas quelque chose qu'on le prend ou on le prend pas. C'est obligatoire. Il doit le faire pour plusieurs raisons. Une des raisons, la première, il est maintenant en Jésus-Christ et par ce fait même est exempt de la condamnation qui est rattachée au péché. Pourquoi? Parce que la condamnation qui est rattachée au péché, c'est lui qui l'a subi à ta place. Donc, tu es libéré de ça, mais tu es en lui. Et être en Christ, ça ne nous autorise pas à continuer à pécher. Le jugement de son péché a été effectué par la personne de Jésus-Christ, alors dans le verset 1. Maintenant, il est habité par le Saint-Esprit et il reçoit sa lumière, ses impulsions. Le Saint-Esprit nous donne des impulsions et il nous donne des directives. Si on est vraiment régénéré, né de nouveau par le Saint-Esprit, on reçoit de la lumière, des impulsions, de la directive. On n'est plus dominé par le péché comme auparavant. De la même manière qu'avant notre conversion, on en est affranchi. Versets 2 et 3. Et troisièmement, Jésus-Christ a accompli les exigences de la loi à la place de ses élus. Verset 4. Versets 5 et 6, le chrétien s'affectionne dorénavant aux choses de l'Esprit Saint, et cette pratique le mène à la vie et à la paix. Cinquièmement, ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Christ et ne peuvent plaire à Dieu. Ça, c'est un des grands phénomènes du 20e, du 21e siècle. Tous les grands observateurs de la scène religieuse mondiale disent que aux États-Unis, il y a au-dessus de 50% de la population qui se dit né de nouveau. Si vous allez faire de l'évangélisation du porte-à-porte aux États-Unis, là, il y a 50%, une porte sur deux qui vont vous dire « I'm born again ». Mais cependant, si vous regardez leur manière de vivre, ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas une conduite qui est dominée par le Saint-Esprit, qui est dominée par une vie de sanctification. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Si tu es un véritable chrétien, ta vie va démontrer l'authenticité par ta sanctification, par ton éloignement du mal. Sinon, c'est complètement faux. Et sixièmement, ceux qui sont en Christ sont morts et ressuscités avec lui. De penser ça, ça prend du temps à te saisir cette notion-là. On est mort. En Christ, on est mort. On est enseveli avec lui. On est monté avec lui lorsqu'il était au ciel. Et lorsque Dieu le Père l'a ressuscité, on était en lui. Et à quelque part, le salut est terminé. Il est en Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père. L'assis, le fait d'être assis, ça veut dire que l'œuvre est terminée. Et septièmement, de façon logique et conséquente, de tout ce qui a été dit, les chrétiens ne doivent plus vivre comme des êtres non régénérés par le Saint-Esprit. Très important, Romains 8, 13, là, on n'a pas d'idée jusqu'à quel point le verset est important et si mal compris. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec les Écritures, c'est qu'on lit tellement de façon superficielle et on lit tellement avec peu de méditation On dirait qu'on lit juste pour lire. Lire le mot, tu le prononces, mais tu comprends pas ce que tu lis. C'est très, très dangereux de lire la Bible de cette façon-là. Alors, les chrétiens doivent, de façon permanente, se confier à la puissance du Saint-Esprit pour les libérer de toutes les formes de péché et les faire mourir. Il n'y a aucune forme de péché que le Saint-Esprit ne peut pas finir par faire mourir. Pas complètement, mais il en élimine un très, très, très grand nombre. C'est une question qui est essentielle, c'est une question qui est inévitable et d'une importance spirituelle avec des conséquences éternelles. Quand on dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez, faut réaliser qu'on est en train de parler de mort éternelle, on est en train de parler de la fosse éternelle. Et si vous vivez selon l'esprit et que vous vous mortifiez, vous allez aller au ciel. J'avais donné une série de 14 sermons là-dessus, si jamais il y en a qui s'intéressent d'aller plus loin, sur la doctrine de la mortification du péché, sur le site pour la gloire de Christ de Rouyn-Noranda. Vous les avez les 14 à la fois en MP3 et à la fois avec les notes. Je vous le dis, si jamais ça vous intéresse. Là, la deuxième idée qu'on va regarder, c'est celle qu'on a parlé dans Colossiens, chapitre 3. Et c'est la doctrine de notre union avec Christ. Et c'est d'une importance capitale de saisir ça. Après le culte, je vais vous donner un document par rapport à notre union en Jésus-Christ, qui est un document qu'il faut que vous lisiez et qu'il faut que vous méditiez. Il y a plein de versets, c'est très intéressant à comprendre. Des fois, on parle, oh, c'est quoi, ouais. Il y en avait, puis je vais te poser des questions, on va savoir si tu sais tant que ça. Donc, Colossiens 3, 5. Vous remarquerez l'expression « faites donc mourir ».« Faites donc mourir ce qui dans vos membres » est en train de parler de notre corps physique. « Tient à la terre ». Et là, il nomme quatre péchés qui sont des péchés de nature sexuelle. Donc, il est en train de dire, faites mourir les péchés de nature sexuelle dans vos vies. Et là, il en nomme quatre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Autrement dit, si vous les prenez les quatre et vous les analysez, il y a deux péchés qui sont de nature des actions. Puis il y a deux autres péchés qui sont de nature dans la tête. Autrement dit, faites mourir les péchés, pas juste ceux que vous faites dans des actions, mais faites mourir les péchés de nature sexuelle, ceux qui se passent dans l'esprit, dans la tête. Très important de faire les deux, parce que si tu ne fais pas les deux, ceux de l'esprit vont t'emmener à l'action. Les deux vont ensemble. Il mentionne les quatre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et l'avarice qui est une idolâtrie. Et regardez ce que dit le verset 6 et le verset 7, car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. C'est pour ces choses, les péchés qui ont été nommés, que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion, dans lesquels vous aussi avez marché autrefois lorsque vous viviez en elles. Il est en train de te dire, fais mourir ces péchés-là. Et à quelque part, on vit, comme on l'a mentionné dans toutes les leçons précédentes qui traitent de sexualité, on vit dans une société où le niveau de tolérance sexuelle est tellement grand qu'on ne peut pas, comme chrétien, être exempté de l'influence de tout cela. Et ça finit par rentrer dans les églises, qu'il y a des choses de nature sexuelle qui se passent dans les églises, que ça n'a plus de sens, là. L'homosexualité dans les églises, ça n'a pas sa place. Quelqu'un qui pratique l'homosexualité dans l'Église et qui s'imagine qu'il va aller au ciel en même temps, il se fait une très, très grande illusion. Il se dirige directement vers l'enfer. Ça, c'est important de saisir ces choses-là. Les cinq péchés qui sont mentionnés, fornication et l'impureté, qui sont des péchés d'action. La fornication, c'est quelqu'un qui n'est pas marié qui couche avec n'importe qui. Puis la fornication, c'est le mot pornéa, et c'est bien important de saisir que le mot pornéa est beaucoup plus large que juste coucher avec la femme d'un autre. C'est tous les péchés de nature sexuelle qu'il soit l'idolâtrie, l'inceste et tous les autres péchés. Alors, après ça, il parle de passion et de mauvais désir. Des passions puis des mauvais désirs, c'est plus au niveau de l'esprit. C'est-à-dire des péchés qui sont commis dans la pensée. Alors, le dernier péché qui est mentionné sur les cinq, c'est celui de l'avarice et de la convoitise, qui est une idolâtrie, selon ce que le texte dit. Alors, les péchés d'action. Le premier péché mentionné est celui de la fornication. Comme je vous disais, le mot grec, c'est important d'avoir des explications par les commentateurs. C'est le mot pornéa. Et le mot pornéa, il va plus loin que juste coucher avec la femme. Tu sais, les gens couchent avec des filles dans la société. Ils ne sont pas mariés, mais ils couchent avec les filles. Mais c'est plus que ça. C'est tous les péchés de nature sexuelle commis par des personnes non mariées. Alors, si on va, par exemple, dans la définition du mot pornéa, dans les outils qui existent pour expliquer les mots grecs, comme par exemple Strong, dans le numéro 4202, voici ce qu'il dit. Et là, je le traduis parce que c'est en anglais. C'est une relation sexuelle illicite qui comprend l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, les relations sexuelles avec les animaux, etc. Aussi, les relations sexuelles avec des parents proches, qu'on appelle l'inceste souvent, le père avec les enfants, ou la mère avec ses fils, ou avec ses filles. Alors, les relations sexuelles avec des parents proches, ou les relations sexuelles avec un homme ou une femme divorcée. Alors, le deuxième péché mentionné est celui de l'impureté. C'est aussi un péché d'action. Les péchés par les personnes mariées, adultères, incestes, sodomie, homosexualité masculine et féminine, bestialité. Les gens qui disent, qui ont reçu, à un moment donné, l'Évangile, ils ont lu l'Évangile, ils ont entendu parler de l'Évangile, et qui continuent d'une façon pratique à vivre ces péchés-là dans leur vie et qui croient qu'ils vont aller au ciel, ils vont avoir une méchante surprise quand ils vont traverser. Si quelqu'un ne prend pas conscience de ça dans le temps qu'il est sur la terre, puis c'est de plus en plus répandu aux États-Unis. J'ai entendu personnellement des femmes qui se disent chrétiennes et qui pratiquent le lesbianisme de façon ouverte, puis le disent en public en plus, puis s'imaginent qu'ils vont aller au ciel. Pour moi, ils ne lisent pas les mêmes écritures que moi. Alors, les péchés sexuels dans la pensée. Alors, les péchés sexuels dans les actions, on sait c'est quoi. Mais les péchés sexuels dans la pensée, des fois, on se dit, bah là, c'est rien que d'en penser, c'est pas trop grave. Mais c'est aussi grave que dans les actions. Alors, le troisième et le quatrième péché qui sont mentionnés sont ceux que les gens pratiquent dans leur pensée, dans l'imagination, ce qu'on appelle les fantasmes. Si vous lisez les revues aujourd'hui, là, non seulement ils vont vous encourager à les vivre, ils vont dire « nourrissez-les vos fantasmes et faites-en le plus possible », alors que la Bible nous dit exactement l'inverse. La Bible nous instruit en nous faisant comprendre que les désirs mènent toujours vers leur accomplissement. Quand tu désires quelque chose dans ta tête, tôt ou tard, ça s'en va dans cette direction de l'accomplissement. Et un verset qui nous dit ça, c'est Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. » Il en parle en termes de grossesse. Dans ta tête, là, c'est comme tu es en train, c'est comme, il compare ça à la conception. Tu es en train de concevoir, mais un jour, tu vas enfanter. Et l'enfantement, c'est la réalisation de ce que tu as dans ta tête. Alors, c'est pas pour rien que le Seigneur dit « Fais mourir ce que tu as dans la tête aussi, parce que tôt ou tard, ça va se ramasser dans la réalité. » Et le péché étant consommé, engendre la mort. C'est en train de te faire voir le lien qu'il y a entre les péchés de nature sexuelle dans la pensée, qui va t'entraîner vers le péché sexuel dans la réalité, Et il te dit le résultat final. Engendre la mort. Selon vous, de quelle mort il parle ici? Parle-tu de mort physique ou il parle de mort spirituelle? Il parle de mort spirituelle. Il parle de l'enfer. Très important. Alors, c'est notre union avec Christ qui doit nous motiver à éviter ce genre de péché. Voyez-vous, dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, alors on a lu le verset 5 qui nous dit « Faites mourir ces choses-là ». Mais il y a des choses qui avaient été dites avant. « Si, donc, vous êtes ressuscités avec Christ, si, donc ça implique, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Alors, je ne pense pas que je puisse terminer ce soir, mais il y a quatre moyens spécifiques pour nous aider à obtenir la victoire dans le domaine de ce qu'on parle ce soir, de faire mourir les péchés sexuels, de nature sexuelle. Alors, on va arrêter là pour ce soir. On terminera cette leçon-là la semaine prochaine.